Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez vivre ce que vous avez chanté? Est-ce que vraiment c'est sérieux? Sophie, vous pouvez remettre le dernier cantique? Puisque, bah, est-ce que vous voulez le vivre, cette affaire? Est-ce que c'est vrai? Pas celui-là. Le dernier. Brûle, brûle, flamme ardente. Voilà. Est-ce que, par exemple, voir ma volonté se plie à la tienne par la foi? Montez le cantique. Mon désir est de te plaire, d'accomplir tout ton dessein. Voilà, on chante des choses c'est un cantique magnifique. Nous chantons des choses profondes, je ne sais pas. Là, on n'est pas on n'est même pas dans le salut. On est dans le dessein de Dieu, après le salut. Est-ce que c'est quelque chose que vraiment vous pouvez dire, oui, je veux accomplir ton dessein? Alors on va faire deux lectures. Dans l'épître aux Romains, on va relire ce qu'on a lu la semaine dernière, à savoir pourquoi Dieu veut faire concourir toute chose à notre bien. Verset, comme je l'ai dit l'autre jour, qui pourrait être sujet à polémique parce que les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Et mais il y a l'explication. Romains, chapitre 8, verset 28. Vous connaissez ce verset? Il est sur plein de signets. Vous savez, ces petits signets bibliques. Vous connaissez ce verset? Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En principe, on en reste là, c'est affiché sur des petits posters, sur des petits signets. On cite ce verset à tue-tête, pour n'importe quelle occasion. Quand quelqu'un traverse une épreuve, on dit, ben, tu sais, t'inquiète pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas, car... Alors, si vous avez des problèmes avec l'explication, vous allez voir M. Ollet et il vous expliquera comment étudier les textes bibliques et respecter les conjonctions de coordination. Car ceux qu'il a connus d'avance... Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voyez, on y reviendra. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul veut vivre quelque chose avec le Seigneur. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Est-ce qu'il y a parmi nous, ne me répondez pas parce que ce n'est pas la peine, hein, mais répondez au Seigneur. Vous savez, je lis toute cette semaine, j'ai été travaillé par le cantique de Anne, puisque la semaine dernière j'avais prêché sur Anne, et la façon dont Dieu a utilisé cette souffrance, cette stérilité, cette irritation pour la pousser à se jeter aux pieds du Seigneur. Après, après le fruit que cette femme a porté, elle va composer un cantique. Et elle va dire dans ce cantique, par lui sont pesées toutes les actions. C'est-à-dire que Dieu voit, par exemple, là je vous pose une question, je vous pose certaines questions, Dieu voit comment vous répondez. Dieu voit, c'est très furtif, mais Dieu le voit. Dieu voit si c'est sérieux. Quand je vous pose des questions par rapport au cantique, c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on ne pense. Vous savez, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Et Dieu regarde à votre cœur. Vous pensez que Dieu est en train de me regarder qu'à moi parce que je prêche et je dois faire attention? Oui, mais je peux vous dire que Dieu regarde autant votre cœur que le mien. Alors l'apôtre Paul, lui, il voulait connaître davantage le Seigneur. Il ne voulait pas des bénédictions. Il voulait connaître davantage le Seigneur. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? C'est-à-dire, la bénédiction, bon, mais la bénédiction, tout le monde la veut, on n'est pas non plus malade. On veut tous la bénédiction, ça c'est clair. Mais entre vouloir la bénédiction, ce qui est louable, et entre vouloir connaître davantage le Seigneur, vous comprenez bien qu'il y a un fossé. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Alors regardez. Le témoignage, on peut partir de ce témoignage pour exhorter l'Église. Philippiens chapitre 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ, et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Donc je viens de le dire tout à l'heure, un disciple, bien sûr, qui doit s'occuper de son salut. Mais il n'y a pas que le salut. Bien sûr, je serais heureux, moi, si cet après-midi, il y avait 20 personnes nouvelles qui viennent et qui toutes veulent s'occuper de leur salut. Si demain, on me disait qu'il y avait 2000 Toulousains qui veulent s'occuper de leur salut, laissez-moi vous dire que ça me réjouirait. Mais une fois que nous avons obtenu le salut, bien sûr qu'il faut entretenir le salut. Le salut, ça s'entretient. Veillez attentivement sur votre âme, tous les jours de votre vie. La Bible dit que celui qui a une vraie piété, il travaille à son salut, avec crainte et tremblement. Un chrétien, il travaille à son salut. Il veut savoir, quand il prend la Sainte Cène, c'est quelque chose de très sérieux. Il comprend ce qu'est la grâce. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, la grâce, mais moi là, ça me fait vraiment pas mal. Pour beaucoup de gens, la grâce, c'est la couverture qui permet de tout accepter. C'est pas grave, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est pas grave, tout le monde va aller au ciel. Bientôt, on va chanter, on ira tous au paradis dans les églises. Mais on n'en est pas loin. La grâce, elle nous enseigne à vivre selon la piété, la justice, le temps qu'il nous reste à vivre sur la terre. La grâce, elle nous enseigne une véritable piété. Si la grâce, elle vous permet de dire, moi je fais ce que je veux, le sang du Seigneur me purifie de tout péché, c'est pas grave si tu mens, c'est pas grave si tu couches, c'est pas grave, Dieu est bon. L'autre jour, on était dans une église avec ma femme pendant les congés, moi j'avais envie de pleurer, il y avait une femme à côté de nous qui priait. Seigneur, tu es gentil Seigneur, tu es mon copain Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, quand on pense que Jésus, notre copain, moi je peux vous dire une chose, on ne le connaît pas. Le copain, même dans le ciel où nous serons parfaits, je peux vous dire que le Seigneur Jésus ne sera pas notre copain. Alors tout ça, je ne dis pas ça pour critiquer cette brave sœur, je ne l'ai même pas vue. Mais je peux vous dire que le salut, c'est quelque chose de sérieux. Nos enfants qui ne sont pas encore baptisés, les gens qui découvrent l'évangile, ils entrent dans nos églises, je parle de nos églises, et je peux vous dire qu'ils nous prennent pour des gens malades lorsqu'ils voient certaines choses, alors que le chrétien, je crois qu'il doit s'appliquer, vraiment s'appliquer, à rendre un bon témoignage. Et je répète, s'il y a bien quelqu'un qui est joyeux sur la terre, c'est le chrétien. Vous le croyez que c'est la personne la plus joyeuse? Moi je le pense vraiment, que s'il y a bien quelqu'un sur la terre qui peut être heureux, c'est le chrétien. Et je ne bannis pas l'humour et la joie, bien au contraire, puisque la Bible nous enseigne combien il y a de la joie dans le Seigneur. Nous venons de lire dans Romains au chapitre 8 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que, hélas, bien des épreuves n'ont pas concouru au bien pour la simple et unique raison que ces gens-là n'aimaient pas Dieu. Ils aimaient peut-être la bénédiction, mais ils n'aimaient pas Dieu. Quand on aime Dieu, vraiment on aime Dieu, on dit voilà, cette épreuve, elle ne me plaît pas. Bien sûr qu'elle ne me plaît pas l'épreuve. Bien sûr qu'elle m'est difficile, mais je l'accepte, car je sais qu'elle va concourir à mon bien. Toutes les épreuves, toutes les épreuves. Toutes les épreuves. Dieu peut les faire concourir à notre bien. Gloire à Dieu, toutes. Il a ce pouvoir infini. On a chanté à toi la sagesse, la gloire, l'honneur. Mais c'est ça que ça veut dire. Que Dieu, lui, il peut, dans sa sagesse infinie, contrarier certains projets, ne pas exaucer certaines de nos prières, pour que véritablement cela puisse concourir au bien, et le bien de ceux qui aiment Dieu. Comme je l'ai dit l'autre jour, c'est pas qu'on ait un meilleur salaire si on perdait l'emploi, ou un meilleur boulot si on perdait le sien. Le concourir au bien, c'est-à-dire que je vais travailler de sorte à ressembler de plus en plus au Seigneur. Est-ce qu'il y a dans l'Église, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, Dieu regarde votre cœur. Est-ce qu'il y a dans l'Assemblée quelqu'un, un homme, une femme, un jeune, un vieux, un diplômé ou pas? Ça, je dis ça pour expliquer que Dieu n'en a rien à faire de ces choses. Dieu regarde le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oui, je veux ressembler de plus en plus au Seigneur? Vous voyez la différence entre le salut et les suites du salut, car pour beaucoup de gens, ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, qu'est-ce qu'il est dit? Ils y trouvent une occasion de chute. Ils ont accepté Jésus, ils se sont repentis, ils ont demandé pardon pour leurs péchés, ils ont compris vraiment que Dieu était venu en Jésus-Christ, que l'histoire de l'incarnation, c'est pas une histoire pour les enfants, c'est la vérité. Dieu est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Celui qui voyait Jésus-Christ, il voyait Dieu, dépouillé de sa gloire, mais il voyait Dieu. Alors certains n'ont pas été touchés par ça. Certains n'ont pas été touchés. Je pensais, hier soir, en m'endormant, je pensais au jeune homme riche. Parce qu'on peut parler de Saül. Saül, c'était aussi un jeune homme riche. Est-ce que c'était un jeune homme riche religieux, Saül? Est-ce que quand ils ont... est-ce qu'il est dit que c'était un jeune homme, Saül, quand on a lapidé Étienne, qui avait peint, ils ont jeté ses vêtements aux pieds d'un jeune homme qui s'appelait Saül? Vous vous rappelez? Bon, il n'a pas compris. Dieu lui parlait, parce que ce n'est pas le hasard comme ça que Dieu ait permis que Saul de Tarse se trouvait là quand Étienne a été lapidé, mais il n'a pas pu lui parler. Parce qu'il y a des fois où Dieu ne peut pas nous parler, même si c'est quelque chose de très fort. C'était quelque chose, la lapidation d'Étienne. Oui ou non? Dieu, il n'a pas capté. Vous savez, Dieu nous parle, des fois on ne comprend pas, mais Dieu nous attend. Et Dieu saura nous parler, si on veut que Dieu nous parle. Vous savez, quelques jours après, comment ça s'est passé pour Saul de Tarse sur le chemin de Damas? Si on ne comprend pas avec tel message, Dieu nous parlera par une autre circonstance. Vous pouvez ne pas saisir ma prédication ce matin parce que votre cœur est fermé, parce que vous êtes tellement fatigué que vous avez du mal à suivre, et je le comprendrai. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, il sait ce qu'il fait. Et il y a le salut, que le nom du Seigneur soit béni pour le salut de nos âmes. Quand on partira dans l'éternité, 10 secondes après, vous réaliserez que la personne la plus riche sur la terre, c'est la personne qui tous les jours peut dire « Seigneur Jésus, merci pour ton sang précieux ». C'est la personne la plus riche de la terre. Est-ce que vous pouvez dire tous les jours, tous les soirs, en vous levant, en vous endormant, « Merci Seigneur Jésus pour le pardon de mes péchés, pour ton sang versé à la croix ». Est-ce que vous pouvez le dire? Eh bien, vous êtes la personne la plus riche au monde. Vous pensez que c'est une façon de parler? Je le dis sérieusement. Il y a donc le salut. Et il y a ceux qui, comme l'apôtre Paul, on l'a vu avec Daniel, qui voulaient vraiment connaître Dieu. Ils voulaient vraiment connaître la pensée de Dieu. Et Dieu lui a révélé un dessein qui court l'histoire entière. Anne était dans la même église que Pénina. Et laissez-moi vous dire qu'elles ont fait une drôle d'expérience chacune. Une dans la souffrance est devenue le dessein de Dieu. Elles étaient sauvées, je pense, toutes les deux. Elles offraient des sacrifices, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a une qui est devenue le dessein de Dieu et qui a engendré un instrument pour la gloire de Dieu. Et je voudrais, peut-être je le fais maladroitement parce que j'ai plein de choses à partager avec vous et je voudrais le faire d'une manière équilibrée. Mais il y a le salut, c'est extraordinaire le salut. un évangéliste se contente de prêcher la croix. Et c'est extraordinaire. Il y a des évangélistes, leur ministère, ça consiste, voilà, à amener les gens au calvaire, à amener les brebis perdues dans le troupeau. Et il y a les pasteurs, moi en l'occurrence, mon devoir, c'est pas tellement d'évangéliser, bien que je le fasse, puisque Dieu dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais mon devoir à moi, je le sais, c'est d'amener les croyants à une profondeur, à dire, à pouvoir dire, ben oui, je suis sauvé, mais ce que je suis en train de vivre en ce moment, non, ça ne concourt pas à ce que le Seigneur grandisse en moi. Ça me maintient dans ma vie charnelle, voilà, j'ai des épreuves, elles m'énervent, je ne comprends pas, j'ai presque envie de partir de l'Église. Il y en a qui l'ont fait. Il y a des gens, pour en rien, ils partent de l'Église. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. La souffrance, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu a permis cette souffrance? Si peut-être le gars, il n'avait pas eu cette souffrance, peut-être il serait resté. Non. Hier, en préparant ce message, il y a un verset qui s'est affiché sur mon cœur. Je vais vous le livrer, je ne pensais pas le mettre, parce que ça n'a rien à voir presque à la prédication. C'est quand Dieu, enfin quand Mardoché, a dit à sa nièce Esther, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es arrivé à la royauté. Ce verset, je l'ai mis sur mes notes. Je ne voulais pas le mettre, et puis je sentais que... Alors il y a quelqu'un, écoutez, il y a quelqu'un ici. Écoutez bien, parce que on a trop perdu de temps, c'est la folie. On a perdu un temps fou. Il y a quelqu'un ici qui doit entendre ça. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais rappelez-vous comment Dieu, pour sauver son peuple, a dirigé, après l'affaire de la reine Vatsi, vous savez cette affaire, comment Dieu a dirigé pour que cette petite, Esther, devienne la femme, pas que l'épouse du roi, ça c'est le côté super ça, de l'histoire. Mais il n'y a pas que ça, c'est pas le fait qu'elle soit devenue reine, c'est qu'elle a servi le dessein de Dieu et empêché que tout le peuple de Dieu, tout le peuple juif soit assassiné. Et Mardoché dit à sa nièce, qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, et croyez-moi, c'était inspiré, que tu es parvenu à la royauté. Et il y a quelqu'un qui est là ce matin. Je ne sais pas ce que vous avez traversé. J'en sais rien. Ça ne me regarde pas. Mais je voudrais vous dire que ce que vous avez traversé, c'était pour quelque chose de précis. Pour vous amener non plus à vous contenter de votre salut, ce que vous avez bien fait de faire et ce que vous devrez continuer à faire. Mais en même temps, pouvoir dire, mais moi aussi, c'est bien les bénédictions, c'est bien les grâces, tout ça, de toute façon, Dieu continuera à vous les accorder, même si vous ne voulez pas obéir à Dieu. Vous savez très bien que Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, qu'il ne punit pas selon nos iniquités, vous le savez. De toute façon, même si on ne veut pas obéir au Seigneur, nous sommes ses enfants, même si on reste que dans le cadre du salut, il nous gardera. Ma prédication n'a rien à voir avec un chantage morbide que Dieu n'approuverait pas. Ma prédication, elle est pour des hommes, des femmes qui sont arrivés à un stade où ils disent, voilà, il y a un temps dans ma vie où je ne dois plus m'occuper que du salut. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je suis arrivé à un temps où moi aussi, je veux gagner Christ. C'est ce qu'on a chanté, c'est ta présence, Seigneur, que je veux. Ce n'est pas la bénédiction. Parce qu'il y a des gens, quand ils chantent, quand ils disent c'est ta présence, ils ne pensent pas à la présence. Ils pensent, c'est ta bénédiction que je veux, Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut analyser ça. Mais il y a des gens, laissez-moi vous dire, quand ils prient, c'est pour être bénis. Je vais vous dire, si vous vous occupez de gagner Christ, vous n'aurez plus jamais besoin de demander à ce que Dieu vous bénisse, parce que croyez-moi, vous le serez. Paul voulait gagner Christ. Alors quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que c'est ça, gagner Christ? Alors le salut, c'est une affaire de monnaie. Voyez? Les détracteurs, tous ces gens qui se sont affairés siècle après siècle d'essayer de dire que la Bible n'était pas vraie, ont utilisé ce genre de texte, ouais, ils se sont fait des gorges chaudes, etc., etc., pour dire, voyez, Paul, il parle du salut gratuit, et puis après, il dit qu'il faut gagner Christ. Vous voyez les gens qui sont pas convertis, ils sont dans le flou complet. Ils disent, mais c'est vrai, ça se contredit. Mais non, il y a le salut qui est gratuit, le salut, c'est par la foi, il n'y a rien à payer pour être sauvé, vous le savez. Si vous voulez aller au ciel, il n'y a pas un centime à donner, la religion du mérite, ça n'existe pas, on est sauvé par grâce, par la foi. Mais il y a des hommes, et je sais qu'il y en a ici, et des femmes, qui veulent vraiment être rendus conformes au Seigneur, qui disent, voilà, moi je veux gagner Christ. Je veux le connaître davantage. Il y en a ici qui veulent le connaître davantage ? Des gens qui disent, non, je ne suis pas content, je ne suis pas content de moi, je ne suis pas content, ça fait 20 ans que je suis chrétien, ça fait 30 ans que je suis chrétien, j'en ai honte. Mais écoutez, venez me voir, je suis exactement dans le même cas que vous. Moi aussi j'ai honte. Mais je sais aussi que Dieu est souverain et qu'il y a des temps marqués où on change. Et je sais, je le sais, que si nous entrons dans cette vie de l'esprit, parce que la vie de l'esprit, ce n'est pas que parler en langue. Je l'ai dit sous maintes formes, la vie de l'esprit. Est-ce que vous pensez que Paul était rempli du Saint-Esprit ? Bon, sans commentaire. Paul était rempli du Saint-Esprit et son désir, c'était de connaître davantage le Seigneur. Ça sera exactement la même chose dans le cœur d'un de ses enfants aujourd'hui. Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, vraiment rempli du Saint-Esprit, il ne pourra pas faire autrement que de vouloir ressembler au Seigneur Jésus. Vous êtes d'accord ? Ça serait étonnant que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit et que ça ne produise pas les mêmes effets que dans la vie de Paul. C'est évident. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il veut connaître Christ. Vous êtes d'accord ? Je continue, vous restez ? Quelqu'un qui veut connaître Christ, il est sérieux, il est joyeux, parce que je pense vraiment que le diable, il essaie de nous faire croire que si nous approfondons notre vie avec Dieu, nous allons tout perdre. C'est exactement l'inverse, parce que c'est là qu'il y a une véritable joie. Vous croyez que Jésus était sérieux quand il a dit avant de mourir, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que cette joie soit parfaite » Vous croyez que Jésus était sérieux ou qu'il faisait s'amuser ? Ça, il a dit ça avant de mourir. Il aurait pu, il savait que Pierre allait le renier, que Judas allait le vendre, c'est la folie, etc., que tous allaient l'abandonner. Mais c'était sérieux. Il y a une joie quand on entre dans cette vie de l'esprit. Il y a une joie quand on découvre ce plaisir au-delà du salut, je le répète, mais de dire, voilà, moi je veux gagner Christ. Parce que je parlais du jeune homme riche tout à l'heure, j'ai pas fini. Le jeune homme riche, il était riche. Saül était un jeune homme religieux, riche. Pareil, c'était deux jeunes hommes riches, tous les deux. Le jeune homme riche de Marc 10 et le jeune homme riche d'Acte 9, à l'occurrence Saul de Tarse. Tous les deux étaient religieux, tous les deux étaient des chefs, tous les deux étaient riches. Tous les deux ont rencontré Jésus, oui ou non ? L'un a rencontré Jésus quand Jésus était fils de l'homme, Saul a rencontré Jésus quand il était ressuscité. Il y a quand même une différence. Et l'un n'a pas compris que c'était le Fils de Dieu, certainement. Enfin, il a compris. C'est compliqué, je ne veux pas tout dire. Je ne peux pas tout dire maintenant. Il est reparti, tout triste. Et Jésus lui a dit, il te manque une chose. Il s'appliquait à respecter la loi, mais le problème, on l'a entendu à la Sainte Cène, ce n'est pas une question de loi, c'est une question de vie. Être avec Dieu, c'est avec Jésus. Jésus, c'est la vie. C'est pas que, il donne pas la vie, il est la vie. Jeune homme riche, Saul de Tarse, qui lui a rencontré Jésus dans le cadre de la résurrection, mais il voulait justement le connaître davantage. Lui aussi, il était riche, lui aussi, il avait des dons et des talents et tout ce qu'il veut. Mais lui, il n'a pas dit, Jésus lui a pas dit, il te manque une chose. Lui a dit, le jeune homme Saul, lui il a dit, je fais une chose. Est-ce que vous comprenez la différence ? Saul de Tarse était exactement dans le même cas de figure que ce jeune homme riche. Mais il avait compris que Jésus était ressuscité. Il avait compris l'avenir, l'éternité. Parce que nous, en fin de compte, on est privilégiés parce qu'on a affaire aux deux. On a affaire à Jésus-Christ, fils de l'homme, dans les évangiles. Et on a affaire à Jésus-Christ ressuscité à partir du livre des Actes. Nous avons les deux. Vous avez dit, ouais, mais on ne l'a pas vu. Mes frères et sœurs, heureux ceux qui n'ont pas vu. Et Paul avait un désir. Et ce matin, très sérieusement, vous savez, le Seigneur m'a beaucoup repris. Pour vous expliquer à une phrase, vous allez comprendre, j'ai beaucoup pleuré cet été. Beaucoup pleuré. Merci Seigneur pour les vacances. Le trésorier qui est à côté, vous pouvez travailler à cela, à me donner davantage de vacances. Mes frères et sœurs, il y a des moments dans la vie où il faut vraiment se remettre en question. Vous avez vu l'état de notre société ? Il faut apprendre à connaître la puissance de la résurrection. Alors écoutez bien, je ne vais pas être long. Parce qu'on partagera vraiment ces choses mardi avec ceux qui le veulent. Ce n'est pas une façon de vous demander de venir mardi. Mais je sais que mardi, ça sera un petit peu plus costaud, un petit peu plus pointu. Que jeudi, ça sera également un petit peu plus serré. Parce qu'il faut quand même qu'on avance. Il faut que ceux qui ont à cœur la gloire de Dieu. Parce que quand Jésus, vous voyez, quand Paul parle de que toute chose concourt au bien, il ne dit pas pour être sauvé. Pas pour être sauvé, mais pour qu'on ressemble au Seigneur. Nous, on fait tout par rapport au salut. Mais nous devrions, je le répète, en plus du salut, dire, voilà, moi je veux gagner Christ. Je veux le connaître davantage. Moi, je veux le connaître davantage. Est-ce que ça vous rassurerait si je connaissais davantage le Seigneur? Est-ce que vous préférez un pasteur? Ben, question vraiment à un franc. Est-ce que vous préférez un pasteur qui connaisse moins le Seigneur? Ou est-ce que vous préférez un pasteur qui connaisse de mieux en mieux Jésus-Christ, ressuscité et glorifié? Bien sûr. Pourquoi? Parce que ça rejaillira également sur l'Église et que ça va nous amener vraiment à comprendre ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il veut gagner Christ. Il veut connaître la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Alors les souffrances, là aussi, je vais dire un mot. Il y a des souffrances, il y a de la souffrance. On souffre tous. Tous, on souffre. N'essayons pas de dire, oh, moi, Dieu m'a béni, je souffre plus. C'est pas vrai. On souffre tous. C'est vrai ou c'est pas vrai? On souffre tous. Et puis, il y a des choses qui nous font souffrir. Il y a des choses qui ne nous font pas rigoler. Il y a des... Si ce n'est pas une souffrance physique, ça peut être la souffrance de ce qu'on voit. Quand on voit qu'une ville comme Toulouse se détourne de Dieu, c'est la deuxième ville homosexuelle de France, et j'en passe, etc. Ça produit, qu'on le veuille ou non, de la souffrance. Même si cette souffrance, on doit absolument la déposer au pied du Seigneur. Il y a de la souffrance. Et vous remarquerez que Dieu a tout le temps utilisé la souffrance pour faire aboutir ses plans. Je pensais hier à Néhémie. J'ai failli prêcher sur Néhémie, d'ailleurs. Néhémie, qui, quand il a appris, alors que lui aussi était en déportation, lui aussi qui avait été, comme par hasard, élevé à être les chansons du roi. Vous voyez, Esther, Néhémie, quand on regarde leur cursus, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Mais je peux vous dire que c'est pour des temps, il y a des temps particuliers dans nos vies. Ah, vous avez dit, oui, mais c'est Esther, oui, mais c'est Néhémie, oui, mais c'est Daniel. Mais toi aussi, mon frère, ma soeur, tu peux avoir été amené à tout un tas de souffrances pour un temps comme celui-ci, un temps où Dieu cherche des chrétiens vraiment qui vont comprendre ce que ça veut dire la communion de ses souffrances. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus a souffert? Bien sûr qu'il a souffert une fois pour tout, il n'y a rien à rajouter au sacrifice de Christ. Mais il y a une souffrance réelle qui consiste à mourir à soi-même. Et le drame de l'Église, du corps de Christ en entier. Monsieur Olé a une réunion de... J'y pensais hier. Monsieur Olé a une réunion de formation des anciens. Avait cité une phrase, je crois, du pasteur Monod, qui avait dit « L'Évangile n'a pas échoué, mais on ne l'a pas essayé. » Mais il est temps de le faire. Cette parole, je l'ai marquée sur mon calendrier. Parce que quand Monsieur Olé avait donné... Parce que bon, alors je vais expliquer vite fait. On a catholicisé la France. Vous me suivez? On a christianisé. Ça ne veut pas dire grand-chose, hélas. Mais est-ce qu'on a amené... Ben c'est bien, on a appelé même la France la mère de l'Église. Bon, enfin bon. Elle l'est plus. Mais moi, j'ai supplié Dieu. Je vous assure, j'ai supplié Dieu. J'ai passé des bouts de nuit à ne pas dormir. En plus, je faisais gaffe par rapport à mon AVC et tout ça. J'ai dit, Seigneur, il te faut me parler. Il te faut vraiment me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ta vie ne se manifeste pas? Parce que bien sûr que Dieu bénit. Il y a des grâces. On a eu deux personnes qui ont été guéries là, pendant le mois de juin. Vraiment guéries. Miraculeusement. Moi, je crois que Dieu fait grâce. Mais je pense qu'il y a une différence entre les grâces que Dieu nous accorde, même si on ne va pas trop bien, même si on ne mérite pas. De toute façon, la grâce, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est des faveurs imméritées. Et puis, la manifestation de la vie de Jésus-Christ par quelqu'un qui, en plus de son salut, s'occupe de faire en sorte que la présence de Dieu puisse se manifester. Et voilà tout le cœur du problème. Mais comment la grâce, Jésus-Christ peut-il se manifester dans une église? Il se manifeste. Alors là, c'est dit à l'envers, dans tous les autres côtés, mais ce n'est pas grave. Mais il parle de la puissance de la résurrection. C'est ça dont on a besoin, que la puissance de résurrection se manifeste. Mais pour que l'onction se manifeste, il faut être conforme à Christ dans sa mort. ce que l'on dit aux gens qui vont prendre le baptême. On dit, voilà, le baptême, c'est la conformité à sa mort, c'est vite, vite balayé. Mais laissez-moi vous dire que la conformité à sa mort, ce n'est pas une expérience, le jour du baptême, qui nous rappelle que Christ est mort, mais Christ est mort, mais ça veut dire que nous aussi, on est mort. Et que quand on prend le vin, ça nous parle aussi de notre mort en Christ. Et je crois, le problème, il est là. Et je l'ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là, je le redis. Ça s'est passé quand ma mère était entre la vie et la mort. Vous voyez, c'était fin octobre. Et je priais pour ma mère, bien sûr, parce que je savais qu'elle allait partir. Bon, mais ça s'est bien passé, ça s'est vraiment bien passé. Mais je pensais, donc je ne dormais pas. Et en même temps, je priais, je disais, mais Seigneur, manifeste ta vie. Dans l'église, on veut voir la vie du Seigneur se manifester. Et vraiment, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, je demande pardon. Et j'étais là, mais je dis, Seigneur, manifeste ta vie. Vous savez, quand vous priez en boucle, que vous répétez, je ne sais pas, ça a duré une heure, manifeste ta vie. J'étais là, j'étais malheureux parce que ma mère, je savais qu'elle allait mourir. Je savais qu'elle m'avait dit de prêcher son enterrement. Il y avait plein de trucs qui se bousculaient dans ma tête, etc. Et elle me dit, Seigneur, manifeste ta vie. Et je prends ma Bible, on va le relire parce qu'il faut le lire. Je prends ma Bible et j'ouvre. Vous savez comment on ouvre des fois, au hasard, comme Esther, au hasard, comme Néhémie. Et je tombe, alors on va directement aller sur le verset 10 du chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens. Et je vous assure, mais j'ai eu l'impression que j'avais demandé à Dieu du pain et il m'avait donné du pain. Du pain, mais avec un peu de foie gras dessus, je vous le dis. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10. Ah, mais je lui avais demandé, vraiment. Écoutez, je suis votre pasteur, vous comprenez bien qu'il faut que j'avance moi aussi. On n'est pas, je dis aux stagiaires, on n'est pas des fabricateurs de sermons. C'est un piège, ça, le pastorat. Il faut fabriquer des sermons, tous les dimanches, tous les mardis. Et c'est un piège, ça. Mais c'est un piège. Je vous assure, recevoir la pensée de Dieu, c'est autre chose. Et cette nuit-là, j'avais demandé, oui, à Dieu du pain, il m'a donné du pain. Et regardez ce texte, je l'ai souligné, vous le comprendrez. Portant toujours, je rappelle, ça faisait une heure que j'ai dit, manifeste ta vie. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et là, je vous assure, j'avais la réponse. Alors, ça fait depuis le mois d'octobre que j'y réfléchis, avec des luttes, des combats, des découragements. Je vous ai dit, en mois de juin, que j'avais été découragé. Ça serait long à vous expliquer. Mais mes frères et sœurs, Dieu cherche une église où il manifestera sa vie, où il manifestera l'onction. Je vous donne un exemple. L'onction, on en parle toujours, il y a des séminaires sur l'onction. Ce matin, je priais. Mais l'onction, chaque fois qu'il y a l'onction, d'huile, dans la Bible. Lisez ce qu'il y a avant. Avant, il y a un sacrifice. Quand David a été oint, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'on a fait avant? Les jeunes pasteurs, répondez-moi. Sinon, vous êtes virés. Répondez-moi. Ils n'ont pas sacrifié une génisse? Alors, c'est un sujet un peu compliqué. Mais quand il y a la vie qui se manifeste, ça veut dire que derrière, il y a eu la mort. Il y a eu la résurrection de Jésus. Parce qu'il y a eu le calvaire. Et porter dans notre corps la mort de Jésus, ça veut dire qu'il n'y a pas que la délivrance du péché. Nous, on s'est occupé de la délivrance du péché. Et on a bien fait. Et il faut le faire. Mais il n'y a pas que la délivrance du péché. Il y a la délivrance du vieil homme. C'est pour ça que Jésus dit, mais si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruit. Un grain de blé, que je sache, ça n'a rien à voir avec le péché. Ça a à voir avec notre nature. Et il y a des choses qu'il ne faut, il faut faire mourir. C'est charnel. Ne confondez pas avec les activités de la vie, le travail, passer la serpillière, le gazon, faire les courses, être sérieux dans... Tout ça, c'est les activités de la vie, faites-le consciencieusement. Mais il y a des choses, elles sont charnelles. La dernière, je vais vous la donner. Vous étiez là dimanche dernier? Pendant ma prédication, bien sûr, je m'applique. Mais il y a eu 45 secondes de chair. Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous l'avez remarqué? Vous étiez là dimanche dernier? Vous vous rappelez, quand je vous ai dit que c'était quand même quelque chose, que Dieu a du mal à trouver quelqu'un pour le service. Si un président de la République Vous vous rappelez quand je vous ai parlé du président de la République? Et puis, très intelligemment, j'ai glissé une ou deux paroles qui laissaient entendre ce que je pensais de la politique actuelle. Et ça, c'est charnel. Ça n'a rien à faire dans une prédication. Vous y étiez dimanche dernier? Voilà. Ça n'a rien. Dieu ne peut pas bénir cette affaire. C'est mon fils Lucas qui me l'a fait remarquer. Merci, mon fils. Il m'a dit, papa, j'ai un reproche à te faire. Dans ta prédication, tu as dit quelque chose de charnel. Mais il avait raison. C'est ça, la chair. Il y a des choses, elles nous éloignent de Dieu. Alors certains ont souri. Puis après, je me suis corrigé vite fait parce que j'ai vu que ce n'était pas bien. J'ai dit, si un roi merveilleux demandait des gens quelle grâce, on irait pour le servir. Bon, mais les 45 secondes, c'était charnel. C'est ça, la chair. Vous voyez que j'ai des progrès à faire. Il y a des choses, ça nous éloigne de Dieu. Il y a plein de choses, elles sont bonnes, elles sont saines. Tout ça, on peut le faire. Mais il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le péché, mais qui sont charnelles. Paul dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Je sais que ce qu'on partagera mardi, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est que Dieu trouve des gens avec qui il pourra manifester sa vie. On n'est pas là pour faire des prédications, pour plaire à tout le monde, pour faire plaisir. Voilà. Mais monsieur Gau, si vous parlez de l'enfer, je l'ai entendu ça, si vous parlez trop de l'enfer, il y a des gens qui vont partir. Écoutez, ça, c'est grave ça. C'est grave. Bien sûr qu'il ne faut pas parler que de l'enfer. Ce serait ridicule de parler que de l'enfer. Si on parle de l'enfer, il faut parler du paradis. Vous voyez ce que je veux dire? Si on parle de la grâce, on peut parler de la colère. Il faut être équilibré parce que la Bible est un livre d'équilibre. Mais mes frères et sœurs, il y a une conformité à la résurrection qui ne peut être possible que s'il y a la conformité à sa mort. Quand je pense que j'ai mis 34 ans à le comprendre. Mais j'en ai honte. Mais je sais que bon, peut-être c'était comme ça. C'est pas grave. Mais à partir de maintenant, mes frères et sœurs, j'ai compris quelque chose. C'est que si nous voulions voir la vie de Jésus se manifester dans l'Église, il ne fallait pas que la délivrance du péché et la mort au péché, ce qui est déjà bien si aujourd'hui dans les Églises on s'occupe du péché. Ça c'est clair. Mais il faut plus que ça. Il faut la conformité à sa mort. C'est-à-dire qu'on s'applique à crucifier tout ce qui est charnel. Il y a des choses, elles sont charnelles. Vous voyez ces 45 secondes dans ma prédication qui étaient charnelles. Mais après tout, bon, je regrette de l'avoir dit. Parce que ce n'est pas intelligent. Pardonnez-moi de l'avoir dit. Mais je pense qu'il faut que chacun, on s'interroge et qu'on demande à Dieu de nous aider. Parce que Dieu agira avec vous d'une manière, avec un autre il va agir. N'imposons pas nos expériences aux autres. Moi j'ai fait telle expérience, tu aurais dû faire la même. Écoutez, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde la grâce, que chacun, nous soyons amenés à porter du fruit. Ça c'est important. Qu'on voit le fruit dans la vie de chacun. Ça c'est important. Mais mes frères et sœurs, la manifestation de la vie, c'est ça que Dieu m'a montré. Et c'est ce qu'on partagera mardi et jeudi. La manifestation de la vie divine, elle n'est pas dans l'activisme. Elle est dans la mort. À la chair, la mort de la chair. Alors, j'espère que vous comprenez, si vous venez pour la première fois, c'est un peu compliqué. Mais la mort de la vieille nature. C'est pour ça que l'apôtre Paul n'arrête pas dans toutes les épîtres de dire qu'il faut se dépouiller du vieil homme. Vous connaissez cette expression ? Se dépouiller du vieil homme. C'est la nature, c'est pas le péché grossier. Le péché grossier, ça a été réglé au calvaire. Nous sommes morts avec le Seigneur, nous sommes morts au péché. Normalement, on devrait... C'est vrai que peut-être qu'on en est arrivé là, parce qu'il n'y avait que ça à faire. Puisque les chrétiens vivent dans le péché, les chrétiens, ils mentent, ils viennent, ils prennent la Sainte-Cène, ils recommencent, et le dimanche d'après, ils reprennent la Sainte-Cène, « Seigneur, pardonne-moi ». Mais c'est sûr que si on en reste là, peut-être qu'il faudra en rester qu'à la délivrance du péché. Mais il y a quand même dans l'Église, et ça, je crois que le Seigneur me l'a montré, il y a quand même dans l'Église des frères et des sœurs qui disent « Non, nous, on veut aussi gagner Christ. On veut connaître la puissance de sa résurrection. On veut voir le Seigneur se manifester dans l'Église. On veut voir le Seigneur marcher dans l'Église. On veut voir tous nos enfants venir à la croix. Est-ce que c'est biblique ce que Dieu a dit au geôlier de Philippe « Toi et ta maison, toi et ta famille, tu seras sauvé. » Est-ce que Dieu peut le dire à chacun d'entre nous? Mais bien sûr. Si Dieu vous a donné des enfants, ce n'est pas pour qu'ils aillent à l'enfer. Si Dieu vous a donné des enfants, c'est pour qu'ils aillent tous au ciel. Vous les voulez avec vous, vos enfants, au ciel? Hein? Ou vos petits-enfants? Il faudrait y penser. Mes frères et sœurs, vous voyez, ça c'est charnel. C'est de l'humour. C'est pas trop charnel, hein, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Ça passe. Vous voyez, ça passe. Ça passe. Enfin, Leslie, il faut quand même... Mes frères et sœurs, Demandons à Jésus, demandons-lui. Seigneur, moi aussi je veux gagner Christ. Merci pour le salut, mais je veux te gagner. Je veux te connaître davantage. Je ne veux pas repartir tout triste tous les dimanches, repartir tout triste et m'occuper que de ma bénédiction. Seigneur, protège-nous. Seigneur, garde-nous. Bénis ma femme, bénis mes enfants, garde mon boulot. On peut le faire, c'est pas interdit. Mais si c'est que ça, je vous avoue que c'est dommage. Il peut y avoir des gens qui disent, moi je veux faire une chose. Bien sûr, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Mais je veux connaître la puissance de sa résurrection. La communion de ses souffrances, les souffrances que je traverse, ça va, ça ne me plaît pas trop, mais je veux qu'elles concourent à mon bien. Ça ne va pas, en ce moment, dans mon foyer, avec ma femme, il y a des difficultés. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait une difficulté dans le couple? Sérieusement, est-ce que ça peut arriver? Et répondez-moi. Là, vous pouvez me répondre. Est-ce que ça peut arriver? Messieurs qui êtes mariés, mes sœurs qui êtes mariées, est-ce que ça a déjà arrivé qu'il y ait un problème dans le couple? Pourquoi tu dis oui, Clément? Mes frères et sœurs, acceptez-le. Acceptez que dans votre couple, acceptez qu'il puisse y avoir quelque chose de difficile. Seigneur, au travers de ce problème, Seigneur, je veux mourir à moi-même. Acceptez-le. Aujourd'hui, paf, ça va pas, on divorce. Moi, je crois que dans l'épreuve, on peut apprendre beaucoup de choses. Mon mari n'est pas celui qu'il devrait être. Mais Seigneur, tu me l'as donné, je vais accepter cette épreuve. Et je crois que c'est ça la communion de ces souffrances, dire j'accepte la souffrance, je l'accepte. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, ce que tu vas utiliser pour me livrer à la mort. J'en sais rien, mais je veux me dépouiller de ma vieille nature. Vous voyez, j'ai parlé de ce qui était charnel, vous voyez. Mais je veux m'en dépouiller, ça n'a rien à faire dans la prédication. Mais tout ce qui nous éloigne de Dieu, vous devez le dire, Seigneur, montre-moi-le. C'est pas à moi de vous dire, tiens, tu as regardé ça, c'est pas bien. Ou tu as fait ça, tu as été là. Demandez à Dieu, qu'est-ce qui m'éloigne de toi? Et nous devons nous en séparer. C'est ça, nous dépouiller du vieil homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vraiment, qui dit, parce que c'est pas, je veux pas savoir, mais Dieu va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, ben moi aussi, je m'occuperai de mon salut. Le péché, ça va être réglé. Mais je vais me dépouiller du vieil homme. Je vais crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et je veux gagner le Seigneur. Ne levez pas la main, ne répondez pas, mais répondez à Jésus. Rappelez-vous cette parole que le Seigneur m'a donnée hier après-midi. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es là ce matin? Ça fait longtemps, je termine vraiment avec un appel. Réécoutez bien. Vous êtes venu ici, vous ne pensiez pas venir ici. Le Seigneur a dépêché les circonstances. Vous êtes là. Vous êtes venu faire vos études ici, vous travaillez ici. Je ne sais pas, vous êtes membre de l'Église depuis 20 ans ou 30, je ne sais rien. Mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, pour que tu puisses travailler à délivrer le peuple de Dieu et les pécheurs. Est-ce que c'était bien qu'Esther soit devenue reine? Vous vous rendez compte? Je pense que dans le ciel, aujourd'hui, Esther, elle ne doit pas être contente d'avoir été reine. Elle doit être contente d'avoir contribué à faire le dessein de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ce matin, dit « Oui, je veux mourir à moi-même. Aide-moi, Seigneur. » On va le partager, l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Je ferai de mon mieux. Je dis ça, c'est sérieux. Parce que je sais que c'est quand même compliqué, parce qu'on n'a jamais eu l'habitude d'entrer dans ces choses. Mais on va y entrer. On va y entrer. Cet après-midi, si vous ne pouvez pas venir à l'évangélisation, eh bien, pendant l'heure, priez. Priez, dites Seigneur. Tu vois, Monsieur Go, il intend de prêcher. Il y a peut-être un pécheur qui vient pour la seule fois de sa vie. Est-ce que ça peut arriver cet après-midi qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour la seule et unique fois de sa vie? Vous comprenez bien qu'il a besoin d'entendre autre chose que des paroles des one-man show. Il a besoin d'entendre que bientôt, on va tous rencontrer le Seigneur. C'est ça l'évangile. C'est pas être pentecôtiste. Je suis baptiste. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'était je suis sauvé. Qu'est-ce que je me suis régalé tout à l'heure à chanter ce cantique. Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé. Vous vous rendez pas compte, c'est la parole la plus importante que vous puissiez prononcer sur la terre. Dans le ciel, vous viendrez me le dire. Écoutez-moi bien. C'est la parole la plus importante qu'un homme puisse prononcer sur la terre. Christ m'a sauvé. Alors j'aimerais qu'on chante ce cantique. Oui, c'est ta présence en réalisant, mais c'est, je veux te connaître davantage. Moi, cette nuit, je me suis réveillé, je ne dormais pas pendant 2 ou 3 heures, et j'étais assis sur mon lit, Seigneur, je veux te connaître davantage. Je ne veux pas prêcher ces choses. Je ne veux pas les prêcher. Je vais presque dire une bêtise, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux le vivre. Je veux l'expérimenter. C'est ta présence que je veux.